Mesdames, messieurs, bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux pour cette présentation de programme. Donc, je m'assure que vous avez tout ce document, qui est le programme et calendrier des cours. Je vais commenter, bien sûr, ce programme dans le détail. Mais j'attire votre attention sur l'importance de garder ce document ou de le redemander si vous le perdez, puisque vous avez ici toutes les dates et les sujets qui seront traités vis-à-vis de ces dates. Donc ne me demandez pas en cours ce que l'on va faire, puisque logiquement vous avez donc le document sous les yeux, ou ce que l'on fera la semaine prochaine, est-ce qu'il y aura cours la semaine prochaine, logiquement vous avez tout sur ce document. Voilà. Il en reste des exemplaires si jamais vous n'avez pas pris. Bon, je vous rappelle sur le plan de l'organisation que ce sont des cours d'une heure et demie qui sont tous illustrés de diapositives par le biais d'un PowerPoint, disons. Et voilà, il y a 25 cours dans l'année comme les années précédentes. D'une heure et demie, ça va se passer alors ici. De temps en temps ici, et ça se passera aussi à la chapelle de Gazinet, pas plus tard d'ailleurs que la semaine prochaine, je crois. Voilà, alors présentons ce programme, que vous ayez une idée relativement précise du contenu de ce programme, c'est important, avant de vous inscrire. Ensuite, vous pourrez vous inscrire si le programme vous intéresse. Un programme qui se justifie par notre actualité. L'actualité est ce qu'elle est, et moi, il m'a semblé vraiment très très important de rappeler ce qu'étaient ces grands foyers de civilisation, à commencer par la Mésopotamie, mais pas seulement la Mésopotamie, et de dire à quel point nous sommes toujours redevables aujourd'hui à ces grands foyers de civilisation qui sont très largement menacés, du moins la culture qui nous ont légué, les traces archéologiques, les œuvres d'art, c'est tout cela menacé par la barbarie, et c'est malheureusement cette actualité qui va justifier un tel programme. Alors ce programme justement est découpé en plusieurs chapitres, comme les programmes de l'an passé, et nous démarrons par un premier chapitre qui s'intitule Mésopotamie-Égypte, les grands foyers de nos civilisations, pour dire d'emblée ce que nous devons, ce que l'on doit à ces civilisations, et très naturellement ce que l'on va mettre en évidence, c'est l'écriture, puisque l'on doit d'abord et avant tout à ces grands foyers, que ce soit la Mésopotamie ou l'Égypte, on leur doit l'invention de l'écriture. Alors on peut être plus précis, l'écriture semble avoir été inventée d'abord par les Mésopotamiens, plus précisément par les Sumériens, bien que cette population reste parfaitement énigmatique. Les Sumériens ne sont pas des Sémites, comme le seront leurs héritiers, c'est-à-dire les Akkadiens. Donc on leur attribue cette invention de l'écriture, plus précisément, des archéologues retrouvés des tablettes à Uruk, la ville d'Uruk. Uruk, c'est en Mésopotamie, plutôt basse Mésopotamie, sud de la Mésopotamie, enfin comprenez, l'Irak quoi. Vous êtes en Irak à Uruk, la ville de Gilgamesh, dont il était, semble-t-il, le roi. Et là, effectivement, les archéologues retrouvent des tablettes écrites en cunéiforme qu'ils peuvent dater, assez précisément, de 3300, 3200 avant notre ère, donc fin du 4e millénaire avant notre ère. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a pas fait de trouvailles meilleures que celle-ci. Donc on attribue très justement, très naturellement, cette invention de l'écriture aux Sumériens. Donc invention mésopotamienne, on pourrait presque se permettre de dire finalement invention irakienne. On leur doit effectivement l'écriture, c'est beaucoup quand même, c'est énorme même. Cette écriture est dite cunéiforme, elle comptera jusqu'à 900 signes quand elle sera très très élaborée. Et 900 signes c'est beaucoup quand même, donc ça suggère qu'en arrière-plan il y a des scribes qui suivent un enseignement ou un apprentissage pour apprendre tous ces signes, et qu'il y a donc derrière cela des écoles forcément, donc des filières pour apprendre ces signes et pouvoir justement donc écrire sur des tablettes d'argile, comme on expliquera donc tout cela dans le détail dans ce chapitre. Bon. Et cette écriture évolue. Parce que quand je vous dis 900 signes, c'est pas au départ. Au départ, c'est quoi? C'est quelques signes, des signes d'ailleurs qui sont très très inspirés des pictogrammes préhistoriques. C'est-à-dire que dès l'époque néolithique, il y a ces signes qui sont en gestation, qui ne forment pas pour autant une écriture, hein, mais qui donneront naissance à l'époque de Sumer, à l'époque d'Uruk, donc à la fin du 4e millénaire avant notre ère, à une vraie écriture qui se lit. Donc au départ, c'était des signes qui étaient proto-cunéiformes, hein, donc une écriture extrêmement archaïque, encore articulée avec ces signes préhistoriques plutôt néolithiques. Mais ça évolue jusqu'à ces 900 signes, et ça évolue si bien que l'écriture apparaît très aboutie déjà sur le code d'Hammurabi, que tout le monde connaît, bon, code qui est daté du 18e siècle avant notre ère, et là effectivement vous avez déjà une écriture qui est très accomplie. Alors cette écriture très accomplie permet, et permet même avant le code d'Hammurabi, bien avant le 18e siècle avant notre ère, de consigner des récits. Et vous savez, enfin vous le lisez comme moi, dans ce premier chapitre, on parlera des premiers grands récits, après avoir parlé de l'invention de l'écriture. Donc des grands récits, c'est ce que permet l'écriture, de consigner des mythes. Les mythes sont de grands récits, on pense à l'Enuma Elish, par exemple. L'Enuma Elish contient le récit du déluge, car le déluge n'est pas un mythe qui serait hébraïque ou biblique. On sait d'abord que la Bible et la Genèse en particulier est rédigée tardivement par rapport à ces époques qui sont très très reculées, c'est-à-dire 7e, plutôt 6e siècle avant notre ère. Et ce que font les Hébreux dans la Bible, ça n'est que recopier finalement un très vieux mythe sémite qui existe depuis déjà des millénaires et qui était contenu dans l'Enuma Elish, le déluge. Et c'est le même récit. C'est le même récit que celui que vous trouvez dans la Bible, mais plusieurs millénaires avant sa rédaction dans la Bible. Alors il y a ce récit qui me paraît très important parce que ça permet de relativiser en même temps des textes justement comme la Bible. Et il y a la liste royale sumérienne, elle est très très intéressante. Est-ce que c'est un récit? Est-ce que c'est une histoire? Oui et non. Donc on nous parle des rois antédiluviens, des rois post-diluviens, et ainsi on a toute une liste de rois avec un événement majeur qui est justement le déluge. Donc oui, on peut le présenter comme un grand récit. L'épopée de Gilgamesh, bien sûr, on ne l'oubliera pas, qui est présentée comme étant le premier récit de l'humanité. La première grande histoire qui a été mise par écrit, la première grande littérature de l'humanité, ça reste effectivement l'épopée de Gilgamesh. Et Gilgamesh, je vous rappelle, est roi d'Uruk, en tout cas c'est la conviction de Botero en faisait un personnage historique, roi d'Uruk, à peu près au milieu du 3e millénaire avant notre ère. L'épopée de Gilgamesh a été rédigée là, quoi, le 3e millénaire avant notre ère. Donc ça en fait effectivement le plus vieux récit de l'humanité. C'est très important, je vous rappelle, Uruk quand même, c'est en Irak, hein, Uruk, hein, c'est en Irak. Bon, alors voici quelques récits qu'on évoquera, peut-être d'autres encore, je ne sais pas, mais enfin au moins ceux-là. Et puis on aura aussi soin dans ce chapitre qui est consacré à la fois à l'invention de l'écriture et au premier grand récit, de parler de l'alphabet, parce que l'alphabet est issu des deux écritures qui existaient donc avant l'alphabet, c'est-à-dire l'écriture cunéiforme qu'on aura présentée, mais aussi, et même peut-être surtout, et peut-être même d'abord, finalement, au bout du compte, l'écriture hiéroglyphique. L'alphabet est issu sans doute de l'écriture hiéroglyphique. Il se produit quelque chose dans la péninsule sinaïtique qui est extrêmement important. On sait, les historiens, les archéologues l'ont démontré, il y a dans la péninsule sinaïtique, depuis très très longtemps, des peuples sémites. Je ne pense surtout pas aux Hébreux. Les Hébreux, c'est un peu mystérieux, hein, du point de vue en tout cas de l'historien ou de l'archéologue, c'est mystérieux. Parlons plutôt des Abirous ou Chazous. Là, ce sont effectivement des sémites qui sont des travailleurs employés par les Égyptiens, donc ça veut dire payés pour des travaux, là, dans la péninsule sinaïtique, et il semble bien que ces sémites adoptent l'écriture hiéroglyphique, la transforment un petit peu et obtiennent un alphabet. Donc là, vous avez un alphabet qui est issu manifestement de l'écriture hiéroglyphique. Ça, c'est la conviction de Roger Messod Saba, qui sont les auteurs du Secret de l'Exode, qui n'hésitent pas à dire effectivement que derrière l'écriture hébraïque, ils vont retrouver des signes hiéroglyphiques. Donc il y a bien un alphabet qui est issu de cela. plutôt dans le cananéen, parce que donc l'écriture hébraïque, l'alphabet hébraïque, est issu de l'écriture cananéenne. Mais il y a l'autre branche, c'est-à-dire l'écriture cunéiforme, qui donne naissance à un alphabet au même moment, c'est-à-dire deuxième millénaire avant notre ère, plutôt le début du deuxième millénaire avant notre ère. Donc les deux écritures, voyez, ont donné naissance au même moment, mais en deux endroits différents, à l'alphabet, et pour l'écriture cunéiforme, elle donne naissance à un alphabet dans les pays du Levant, c'est-à-dire à Ougarit, Ougarit, Byblos, qui sont des villes très très importantes. Hein. Donc c'est important parce que, au bout du compte, qu'est-ce que nous sommes en train d'expliquer? Que notre alphabet, celui que l'on emploie, celui que vous avez sous les yeux, que vous utilisez finalement, ben, il est issu de cette invention finalement sumérienne, hein, cette écriture cunéiforme qui est mise au point, j'insiste, en Irak, hein, donc à la fin du quatrième millénaire. On leur doit ça. Ainsi, si on parle d'héritage, si on se pose la question, effectivement, en quoi sommes-nous toujours redevables à ces civilisations très très anciennes? Ben voilà, donc là vous avez la réponse. L'alphabet qu'on utilise, il est issu de tout ça, de tout ce passé, de toutes ces grandes civilisations qui nous donnent donc des inventions qui sont bien sûr plus que majeures. Hein. Alors voilà, c'est une aventure en fait, hein, parce que on partira effectivement de ces signes préhistoriques, hein, de ces pictogrammes préhistoriques, historique néolithique, pour arriver à notre alphabet, hein, par le biais bien sûr des Phéniciens, les Phéniciens qui semblent avoir inspiré les Grecs, hein, les Grecs leur empruntent donc leur alphabet, mais les Phéniciens l'avaient emprunté, semble-t-il, eux aussi aux Cananéens, et ainsi de suite, et on remonte comme ça à l'écriture cunéiforme. Bon, alors oui, c'est une aventure, c'est une très très grande aventure qui est absolument essentielle pour l'humanité. Alors bon, c'est un aspect de ce chapitre, parce qu'il y a trois cours, et le troisième cours de ce premier chapitre s'intitule « La création des images ». Là, on s'attachera plutôt à l'Égypte. Non pas que les Mésopotamiens ne seraient pas de grands créateurs d'images, ils sont de très très grands créateurs d'images, mais l'Égypte, que voulez-vous, donc les imagiers égyptiens sont vraiment incomparables. Donc ils sont très pertinents, ils créent des images qui sont porteuses de sens, et même sans doute beaucoup plus, porteuse d'un véritable pouvoir. Quand un imagier égyptien recouvre les murs d'une tombe égyptienne d'images, hein, qui peuvent être ou bien sculptées ou bien peintes, il a l'ambition de créer pour le défunt un monde virtuel, un monde dans lequel, par l'image, grâce à l'image, le défunt pourra se survivre finalement dans cet au-delà qui est reconstitué par le biais de l'image. Donc c'est très important, l'image est dotée d'un pouvoir, elle est porteuse de sens et elle est dotée d'un pouvoir carrément. C'est sans doute pour ça d'ailleurs, avec cette ambition-là, c'est pour ça que les imagiers égyptiens sont incomparables, tout à fait incomparables. Donc on insistera beaucoup là-dessus, sur ces grands créateurs d'images qu'étaient les Égyptiens de l'Antiquité, et remarquez bien sûr que nous passerons de ce sujet-là à un nouveau chapitre qui parlera, quant à lui, de la destruction des images. On aura beaucoup insisté, donc ce sont des peuples anciens qui sont de très très grands créateurs d'images, on leur doit beaucoup, hein, mais vous n'avez pas idée, hein, donc quand les chrétiens ressassent leur poisson, le poisson des chrétiens, ictos, ils le doivent bien sûr aux Égyptiens, à ces inventions égyptiennes. Bon. Mais alors effectivement, on passera de la création des images à leur destruction. Et c'est un chapitre que j'ai voulu court, hein, parce que c'est déprimant, bien sûr, c'est tout à fait déprimant comme sujet, mais enfin c'est l'actualité, hein, ça je n'avais pas caché l'an dernier, je vous avais dit effectivement que ce chapitre, enfin ce programme, collerait à l'actualité. Alors, un chapitre qui s'intitule « Les nouveaux barbares », hein, entre guillemets d'ailleurs, « Les nouveaux barbares hein, ». Ne vous trompez pas sur l'identité de ces nouveaux barbares. Ces nouveaux barbares, ce sont les libertariens, ce sont les adeptes d'un capitalisme effréné, on pourrait dire plutôt désinhibé, hein, ce sont les créateurs de start-up, ce sont ceux qui donc souhaitent une ubérisation de la société, mais une ubérisation très excessive. C'est eux, hein, les nouveaux barbares, hein. Ne vous trompez pas, hein, de cible. Bon, vous connaissez l'histoire à ce propos, hein, parce que l'appellation, elle est entre guillemets, je veux dire par là, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est pas moi qui vais désigner ces gens de nouveaux barbares, c'est eux qui s'appellent comme ça. Hein. Donc l'histoire est la suivante, Antoine Brachet, créateurs de start-up tombe un beau jour sur une liste qui a été éditée par l'Institut Choiseul, la liste des 100 entreprises françaises les plus prometteuses dans l'avenir. Et il se rend compte, ce créateur de start-up, que ces entreprises-là sont en fait les entreprises des fils de Bolloré, fils de Pinault, fils d'Arnaud, etc. Et lui, il n'est pas d'accord avec cette liste, c'est-à-dire qu'il ne trouve pas de créateurs de start-up dans la liste en question des 100 entreprises les plus performantes ou les plus prometteuses de France. Et il décide de publier sa propre liste des 100 entreprises qui lui paraissent les plus prometteuses, donc 100 start-up françaises. Et cette liste qu'il publie, il la mentionne, les 100 barbares, les nouveaux barbares, c'est l'appellation qu'ils se donnent. Et vous allez comprendre pourquoi finalement, donc ils sont très importants à introduire, ces nouveaux barbares, dans ce petit chapitre. Alors petit chapitre, oui, qui est déprimant, parce que on va évoquer une petite histoire du vandalisme de l'Antiquité à nos jours. Petite histoire, si on faisait la grande histoire du vandalisme de l'Antiquité à nos jours, c'est pas compliqué, ça prendrait le programme entier. 25 cours d'une heure et demie, et encore, c'est pas sûr. Alors là, y a que l'embarras du choix, donc je ne sais pas du tout ce que je vais présenter ce jour-là. Est-ce que je parlerai des Vandales? Les Vandales qui prennent et pillent Rome en 455. Peut-être pas, parce que les Vandales, finalement, n'étaient pas les pires des barbares de l'Antiquité, ceux qui étaient appelés les barbares par les Grecs ou les Romains, ceux qui franchissaient le Limès, la frontière de l'Empire romain. Les Huns étaient bien pires que les Vandales. Bon, alors je ne sais pas si on parlerait des Vandales. Donc, l'incendie du temple d'Artémise à Éphèse par Hérostrate. Oui, ça me paraît intéressant, parce que Hérostrate se venge, c'est une vengeance mesquine, c'est-à-dire effectivement qu'il n'est pas d'accord avec cette ville, et il décide comme ça donc d'incendier ce temple qui, vous le savez sans doute, puisqu'on en visite encore aujourd'hui les ruines, était l'un des plus grands et l'un des plus beaux temples grecs de l'Antiquité. Détruit par Hérostrate, c'est un personnage de l'Antiquité, Hérostrate. Ça, c'est du vandalisme, donc gratuit, totalement gratuit. Et je parlais donc d'une sorte de vengeance mesquine. Ça renvoie, pourquoi pas, à Alexandre le Grand. Quand il arrive à Persépolis, il incendie la ville de Persépolis. C'est dommage, parce que on l'avait présenté justement Persépolis, je crois. L'an dernier ou l'année d'avant ou même les années précédentes, Persépolis, c'était un site, et c'est toujours d'ailleurs un site spectaculaire, mais l'architecture était en bois, les colonnes que l'on voit encore aujourd'hui à Persépolis portaient des poutres en bois, et donc bien sûr l'incendie ravage tout ça, et Alexandre le Grand se venge là, parce que ses amis, ses compagnons ont été tués au cours de ces batailles qu'il a voulu, Alexandre le Grand, contre les Perses achéménides. Donc il se venge, il brûle Persépolis, c'est totalement gratuit, c'est une vengeance mesquine, ça ne sert à rien, puisqu'il a gagné cette guerre contre les Perses achéménides. Ça rappelle Churchill. Un Churchill qui décide de bombarder Dresde. Donc à l'époque où il décide, où il prend ce choix qui est tout à fait légitime, il ne faut pas bien sûr le critiquer. Au moment où il fait ce choix, il sait très bien que les Alliés ont gagné. Il sait très bien que la guerre est finie. Il sait très bien que les nazis ont perdu. Mais il se venge. Il se venge, et c'est tout à fait légitime, puisque Londres avait été bombardée par les nazis donc plus d'une fois. Vengeance mesquine de Churchill. Bon, mais dans cette vengeance mesquine, qu'est-ce qu'on perd? On perd des œuvres du célèbre musée de Dresde, des œuvres de Albrecht Dürer, un autoportrait d'Albrecht Dürer qui était unique, puisqu'il s'était représenté en Ecce Homo. Donc oui, c'est du vandalisme tout ça. Et on perd, c'est la culture qui s'effrite, qui disparaît, qui s'évanouit. Quels autres exemples à donner dans cette petite histoire du vandalisme de l'Antiquité à nos jours? Les bronzes grecs, je dis bien grecs d'ailleurs, je ne parle pas des copies que les Romains faisaient des bronzes grecs, non, les vrais bronzes grecs, il y en a très très peu. Et s'il y en a si peu, c'est en raison de la cupidité des hommes, qui récupèrent le bronze pour en faire des canons. pour la guerre. Bon, alors on les a perdus pratiquement tous ces bronzes grecs. Bon, est-ce que je parlerai de l'iconoclasme, religieux, hein? Oui, sans doute, pas longtemps, mais juste au moins pour rappeler que dans l'histoire, devant l'histoire, il n'y a pas eu de pires iconoclastes que les chrétiens. Deux phases, l'iconoclasme byzantin, 125 ans, on détruit tout dans l'Empire byzantin, et l'iconoclasme calviniste. Là, c'est redoutable. Hein. Donc, il n'y a pas eu de pire iconoclaste que les chrétiens. Est-ce que je parlerai de la Révolution française ? Non, j'en parlerai pas, mais enfin, vous savez effectivement qu'il y a beaucoup de vandales parmi les révolutionnaires. Est-ce que je parlerai du sac du palais d'été ? Non plus, sans doute pas. J'en ai parlé l'an dernier, souvenez-vous. Hein, le palais d'été à côté de Pékin. Juste à côté de Pékin, on avait expliqué l'histoire. Bon, les Français et les Anglais, qui s'entendent toujours très bien pour piller, bombarder, les Anglais et les Français qui vont effectivement décider, là on est dans les années 1860, de bombarder tout simplement le palais d'été qui est à côté de Pékin, le palais d'été de Pékin. Et donc non seulement ils le bombardent, ils le détruisent, mais ils le pillent. C'est-à-dire qu'ils vont rapporter des œuvres, chez nous, hein, ou bien en France ou bien en Angleterre, des œuvres qui sont encore vendues aujourd'hui, puisque cette année, il y a quelques mois de cela, ont été vendues à Bordeaux, trois Bouddhas, qui provenaient justement de ce saccage, hein, du palais d'été de Pékin. Est-ce que je parlerai du bombardement par les Français de Damas ? Hein, dans les années 1920, ce sont les Français qui lâchent des bombes sur Damas, le quartier historique, hein, bien sûr, de Damas, hein, qui est juste à côté de la grande mosquée des Omeyyades de Damas. Je parlerai des talibans, ça c'est sûr, les talibans qui détruisent ou qui ont dynamité les Bouddhas de Bamiyan. J'en parlerai de l'État islamique, avec notamment des destructions qui sont irréparables à Mossoul, bien sûr, comme d'ailleurs à Kaboul, les talibans ont détruit des pièces inestimables du musée de Kaboul. Bon, alors je parlerai effectivement de tout ça, et remarquez à ce propos que mon ambition, c'est juste de présenter une petite histoire du vandalisme. Heureusement d'ailleurs, hein, parce que, oulala, hein, c'est dense, hein, il y a beaucoup de choses, et là tout le monde est impliqué, hein. Il ne faut pas croire effectivement qu'il n'y a que les talibans ou l'État islamique, hein, voire même, hein, on pourrait ajouter, sont des amateurs en fait, hein, sont des amateurs. De là, donc, de cette petite histoire du vandalisme de l'Antiquité à nos jours, on passera au pillage et trafic des antiquités. Un marché de l'art en expansion, c'est peu de le dire. On rappellera bien sûr que ce trafic des antiquités, c'est le troisième trafic au monde après la drogue et les armes. C'est considérable. Il génère 6 milliards d'euros par an. Donc, il nourrit la violence, il nourrit la corruption, et en bout de chaîne de ce trafic des antiquités, il y a le marché privé des antiquités, le marché privé des antiquités, qui donc tout d'un coup nous transporte chez nous, parce qu'il est là en Occident, chez nous, ce marché privé des antiquités, qui fonctionne en dehors de toute législation internationale. Et c'est là où vous retrouvez les désinhibés, ceux qui sont désinhibés, totalement désinhibés. Donc ceux qui sont, parce qu'ils ont de l'argent, hein, se permettent tout, finalement, et qui se retrouvent dans cette situation de désinhibition totale. Alors vous voulez des noms, je vous en donne, finalement. La famille Wildenstein, c'est intéressant parce que le procès vient s'ouvrir, là, des Wildenstein. Donc il y a une semaine, hein, que le procès s'ouvre, des Wildenstein. La collection des Wildenstein est remarquable, tout à fait remarquable, exceptionnelle, mais, bon, c'est peut-être pas un bon exemple parce que les Wildenstein, c'est plutôt des fraudeurs. Hein, bon, ils ne s'impliquent pas dans un trafic des antiquités, hein, c'est des fraudeurs, ils fraudent le fisc si vous préférez. Bon, alors c'est pas un bon exemple. Alors prenons un autre exemple, Marion Trout, c'est une responsable d'un des plus prestigieux musées américains, qui est le Paul Getty Museum à Los Angeles. C'est peu de le dire, le Paul Getty Museum à Los Angeles, c'est une collection fantastique, c'est un des plus grands musées américains. Et on sait effectivement que ces musées ont beaucoup, beaucoup de moyens, sont très bien dotés, et que ces gens qui contrôlent, qui sont les responsables de ces musées, sont ou appartiennent à des classes sociales qui sont très, très élevées. Enfin, on n'approcherait pas Marion Trout, hein, on ne pourrait pas donc effectivement l'approcher parce qu'elle fait partie d'un milieu extrêmement élevé. Et Marion Trout se rendait en Italie, hein, c'est-à-dire chez des sous-développés. Hein, donc les Italiens, ce sont des sous-développés. Donc elle se rendait là en Italie pour acheter à des pilleurs de tombes des objets qui alimentaient son musée. Comprenez bien, le Paul Getty Museum à Los Angeles, c'est quelque chose. C'est-à-dire que cette femme qui est richissime, cette femme qui est américaine, qui appartient à un milieu social très très élevé, bon, cette femme alimentée, stimulée, hein, donc des pilleurs de tombes en Italie, qui allait effectivement sans vergogne casser des tombes dans des champs archéologiques pour y récupérer des objets de toute première importance qui le revendait à Marion Trou pour une somme tout à fait dérisoire. Exactement. C'est-à-dire que là, ce que vous avez effectivement, c'est deux choses qui se correspondent. C'est-à-dire d'un côté des pilleurs. Donc de sites archéologiques qui se trouvent au Proche-Orient, qui sont des islamistes, qui vont d'ailleurs à ce propos, ils sont très habiles, ils vont détruire, ils vont casser, mais très peu de choses en fait, ils sont pas fous, ils savent très bien que le trafic des antiquités c'est 6 milliards d'euros par an, ils savent très bien que c'est le troisième trafic au monde après la drogue et les armes, donc ils cassent et filment ce qu'ils cassent pour nous, pour donc agacer finalement les Occidentaux, mais le reste n'est pas cassé, hein, le reste est récupéré, pillé, revendu par le biais du net, du darknet. Hein, le darknet, c'est une part très importante du net, c'est même la part la plus importante du net. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que en bout de chaîne, hein, en bout de chaîne de ce trafic des antiquités, j'insiste beaucoup, il y a le marché privé des antiquités. Et le marché privé des antiquités, c'est des grands noms, hein. C'est des très très grands noms. Hein. J'ai cité Marion Trou, mais enfin, on pourrait se permettre de citer Christie's, Sotheby's et d'autres, hein, qui sont voilà, qui sont pas nets. Hein. Ils sont pas très clairs dans ce marché-là, en tout cas. Hein. Bon, il y a des combines, quoi, hein, qui permettent effectivement de d'effacer la trace d'un objet qui arrive ici en Occident, comme pour la drogue. Hein, comme pour la drogue, comme pour les armes, comme pour l'argent sale, etc., etc. Alors voilà donc comment les deux se correspondent, c'est-à-dire à des barbares qui détruisent et qui pillent des sites archéologiques au Proche-Orient, qui sont bien sûr des islamistes, correspondent de nouveaux barbares, hein, des gens qui sont totalement désinhibés, hein, qui sont les tenants d'un capitalisme désinhibé. C'est pas nouveau d'ailleurs, hein. Pensez effectivement, pourquoi pas aux conquérants, les conquérants qui partaient à la conquête de l'Amérique et qui étaient eux aussi désinhibés, qui arrivaient là-bas massacrer tout le monde. Au nom d'un dieu d'ailleurs, hein. Ça fait froid dans le dos, hein. Donc bon. Bon, alors c'est effectivement, je pense effectivement que c'est une symétrie en fait. Hein. Il y a d'un côté clairement une organisation du chaos, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est le théologien docteur de la loi, là, le ouléma, donc islamiste, hein, qui l'a dit clairement, donc il veut l'organisation du chaos au Proche-Orient, mais il y a donc la symétrie, hein, de cette organisation du chaos qui est effectivement celle que souhaitent les nouveaux barbares. C'est la disruption, si vous voulez. Hein. Leur ambition à ces nouveaux barbares, c'est de tout disrupter. Voilà, alors donc, effectivement, une symétrie qui me paraît intéressante. Bon, alors, vous voyez pourquoi le chapitre sera court. Hein. Rassurez-vous, hein, c'est de court seulement. Hein. Il vaut mieux, d'ailleurs, hein, parce que c'est des questions qui sont assez agaçantes, mais c'est notre actualité. Moi, c'est ce que je voulais. Je voulais donc un programme qui colle à l'actualité, donc qui va nous conduire comme ça, inévitablement, donc à faire le bilan des sites qui sont détruits et menacés. On commencera par la Syrie, et là, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de parler de Palmyre. Certainement pas. Hein, ne vous attendez pas donc à ce que je vous montre les beautés de Palmyre. D'abord parce que j'ai bien conscience que je les ai montrées. Hein, c'est des cours que j'ai fait, c'est des choses que j'ai déjà montrées. Non, non. Il s'agira de dire simplement ce qui a été perdu à Palmyre. Bon, alors ce qui a été perdu à Palmyre, c'est notamment, entre autres choses, un temple de Bel, un temple de Baal que Tibère, empereur romain, inaugurait en 32 de notre ère. Et ce que voulait Tibère, l'empereur romain, donc avec cette inauguration, c'est offrir à la population de Palmyre un temple interreligieux. C'est-à-dire que Palmyre, c'est d'abord une cité arabo-araméenne. Quoi qu'en dise le directeur de l'Institut du monde arabe à Paris, c'est-à-dire Jack Lang, qui présente cette ville comme une ville grecque ou romaine parfois, bon, c'est ridicule, c'est une ville arabo-araméenne qui était peuplée de Parthes, c'est-à-dire d'Iraniens, qui était peuplée de Grecs, bien sûr, de Romains et d'autres populations qui se retrouvaient ici à Palmyre, et donc qui venaient avec leur religion. Mais il ne s'agit pas pour le Romain Tibère de leur interdire leur dieu. C'est au contraire de concevoir un lieu, un édifice, où ils pourraient tous se retrouver, afin effectivement de prier un dieu, donc Baal, mais qui correspond donc par un jeu d'équivalence à tel autre dieu Parthe, ou tel autre dieu grec, ou tel autre dieu romain, etc. Vous voyez là, le niveau de ces civilisations, de ces gens du passé qui, en fait, on aurait beaucoup à apprendre de ces gens-là. Est-ce qu'il existe quelque part, donc, un temple, une maison religieuse, si vous voulez, qui serait commune aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans? Ça existait sous l'Antiquité, autant le dire, c'était à Palmyre. Ça a été dynamité, ça n'existe plus. Le temple de Belph n'existe plus. Donc c'est ça qu'on fera, hein. On essaiera de voir effectivement ce qui a disparu, et donc du même coup, ce que l'on perd, nous, donc c'est un héritage que l'on perd, ce sont des leçons que l'on perd, hein. Donc il y a une profondeur, il y a une grandeur dans ces civilisations. Si elles sont grandes, c'est justement parce que elles sont tolérantes, elles sont ouvertes sur les autres populations, etc., etc. Alors, Alep, est-ce que je dois en parler d'Alep? Pas en parler, bon. Sinon pour dire, voilà, c'était une citadelle médiévale, qu'en reste-t-il aujourd'hui? Rien, plus rien du tout. Il y avait à Alep un musée archéologique national, qu'en reste-t-il? Bon, sans doute rien du tout. Marie, c'est un site qui est en Syrie, et c'est là que les archéologues, il y a plusieurs dizaines d'années de ça, ont mis au jour la plus vaste bibliothèque contenant des tablettes cunéiformes. Donc c'est une trouvaille inestimable, heureusement que ces tablettes sont aujourd'hui disséminées un peu partout dans les musées du monde entier, qu'on les a étudiées, donc qu'on les a traduites, etc. Et c'est une bibliothèque, effectivement, qui était formidable. Que reste-t-il de Marie, aujourd'hui, du site archéologique de Marie, où on a fait cette fameuse découverte? Apamée, si vous avez eu l'occasion de visiter Apamée, alors vous vous rappelez effectivement d'Apamée. Apamée, c'est en Syrie, enfin, c'était en Syrie, donc un site remarquable. Et vous savez, ça c'est notre actualité, c'est ce qu'on dira donc au cours de cette séance, que Apamée est sous le contrôle de Daesh depuis 2014. Mais ça change, hein, il faut être prudent, c'est-à-dire que en suivant l'actualité, on s'aperçoit que du jour au lendemain, tel site est repris par les uns, et puis repris par les autres. Donc là, c'est a priori la situation, hein, qui n'a pas changé. Apamée est une cité, un site archéologique et une cité donc, hein, sous le contrôle de Daesh depuis 2014. Mais enfin, d'ici là, qu'on fasse le cours, là, hein, ça sera peut-être en décembre là, qu'on fera le cours, peut-être que tout sera arrangé après tout, hein, peut-être que ça sera la paix en Syrie, que tous les sites seront reconstruits, que l'on pourra retourner effectivement en tant que touriste à Palmyre, Alep ou encore à Pamé, allez savoir. Hein. Et donc mon programme, là, il sera invalidé. Et je n'aurais même pas besoin donc de le continuer après tout. Hein. Bon, après tout, c'est pas impossible. Hein. Donc décembre, là, tout est arrangé. Il y a plus de problème. Hein. C'est bon. Doura Europos, là encore une fois, c'est pour faire le bilan et non pas pour présenter Doura Europos. Doura Europos, c'est un site archéologique où on a fait pareillement des découvertes sensationnelles et notamment la découverte d'une synagogue qui est aujourd'hui a priori toujours intacte au Musée national de Damas, une synagogue peinte, hein, c'est-à-dire dont les murs sont recouverts de peintures datées du 3e siècle de notre ère. Ça aussi, c'est un patrimoine mais inestimable, hein, parce que c'est souvent que l'on dit ou que l'on croit que ce sont les imagiers chrétiens qui ont été les premiers à illustrer, disons, la Bible, Ancien Testament ou Nouveau Testament. Non, ce sont les Juifs. Ce sont les Juifs dans ces cités-là, et notamment les Juifs de Doura Europos, qui, par le biais de peintures, parfois de mosaïques, ailleurs de mosaïques, illustraient l'Ancien Testament, illustraient la Torah, hein, illustraient l'histoire de Moïse, celle d'Abraham, que sais-je encore. Hein. Donc ça, ce sont des sites qui sont mais vraiment prodigieux. Hein, pour encore une fois, c'est un héritage. Hein, on est les héritiers de toute cette grande culture. Et si on perd ça, si on l'oublie, si on le perd de vue, que reste-t-il? Que nous reste-t-il? Hein, c'est pas grand-chose en fait. Hein. Alors de la Syrie, on passera à l'Irak. L'Irak, alors c'est plutôt d'ailleurs le nord de l'Irak, les grandes cités assyriennes, Ninive, Khorsabad, Nimroud, qui étaient les grandes capitales des Assyriens sous l'Antiquité. Attention, même chose, il ne s'agit pas de parler de Ninive, ou de Khorsabad, ou de Nimroud, certainement pas, mais de dresser le bilan, c'est-à-dire de dire, par exemple, qu'en mars 2015, le palais nord-ouest de la cité de Nimroud, donc palais assyrien de l'Antiquité, qui est daté de tout début du premier millénaire avant notre ère, ce palais nord-ouest de Nimroud a été pulvérisé par l'État islamique en mars 2015. C'est le bilan, on fait le bilan. On parlera de Tikrit. Tikrit, c'était le symbole de la grandeur du christianisme avant l'islam, hein, donc c'est-à-dire avant que les musulmans ne partent à la conquête de la Syrie, à partir du 7e siècle de notre ère. Tikrit et toutes ces régions-là, bien sûr, étaient fortement christianisées. Or, Tikrit était le symbole de la grandeur du christianisme avant l'islam. Que reste-t-il de Tikrit, puisque Tikrit a été dynamité en 2014? Là aussi, quel héritage, quel patrimoine, hein, on perd, hein, c'est terrible. Alors, Hatra, j'en ai souvent parlé de Hatra. Hatra, c'est une ville rare, extrêmement rare. C'est une ville parthe, la civilisation des Parthes arsacides. Donc, c'est une ville extrêmement rare. Donc, que reste-t-il de cette cité d'Hatra? On sait qu'elle a été victime, là aussi, de dynamitage, ces fameux iwans qui nous avaient intéressés dans des cours précédents. Rassurez-vous, je ne vous en parlerai pas, hein, de ces iwans. C'est juste un bilan, hein, donc je ferai un bilan des sites qui sont ou bien détruits ou bien menacés. Hein. Et donc on rappellera, Hatra était une capitale parthe. Qu'en reste-t-il aujourd'hui, alors qu'elle était bien conservée archéologiquement? Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Donc la Libye. Alors la Libye, c'est plutôt des sites menacés. C'est-à-dire que les trois sites qui sont signalés ne sont pas, heureusement, aujourd'hui détruits. Cyrène, Leptis Magna, Sabrata, qui sont des grandes cités, qui sont d'origine grecque, hein, d'ailleurs. Hein. C'était des colonies grecques, hein, à l'origine. Donc celles-ci sont intactes, a priori, hein, aujourd'hui celles-ci sont intactes, mais elles sont menacées quand on se rappelle, par exemple, que le maire de Sabrata, Sabrata, c'est un beau site archéologique. Le maire de Sabrata est proche d'un groupe aligné sur Al-Qaïda. Et il a fait de Sabrata un camp d'entraînement. Donc on y entraîne ici, sur ce site archéologique qui est vraiment prodigieux, on y entraîne des islamistes, ce qui peut entraîner du même coup des attaques occidentales, des bombardements sur Sabrata, et là on perdra. Alors c'est pas l'actualité, hein, là c'est pas du tout l'actualité, on est hors actualité, mais enfin, ce sont bien des sites menacés. Bon, alors l'Afghanistan, j'en parlerai un petit peu. Bamiyan, non, j'en parlerai pas de Bamiyan. Bamiyan, donc on le sait, c'est les Bouddhas qui ont été dynamités par les talibans en 2002. On prévoit d'ailleurs de les restaurer, hein, mais ce sont des entreprises difficiles, coûteuses, surtout difficiles, parce que c'est l'Afghanistan, justement, hein. Et puis on parlera de Bactre et de Ahiranoum, quoique j'en ai parlé l'an dernier, hein, donc il n'est pas sûr que j'en parle longtemps en tout cas, de Bactre et de Ahiranoum, qui sont des grandes cités de l'État gréco-bactrien. Donc j'en parlerai au moins pour ça, pour rappeler qu'après Alexandre le Grand, après la conquête de la Perse achéménide, la civilisation hellénistique se transporte là, c'est-à-dire en Afghanistan, se transporte là et au Pakistan, c'est-à-dire cette région qu'on appelle Gandhara, et ces Grecs seront fascinés par les cultures qu'ils vont y rencontrer, que ce soit en Inde ou que ce soit la culture chinoise, et donc là ça va profiter finalement à des échanges interculturels entre l'Occident grec, l'Occident hellénisé, et l'Orient, que ce soit l'Inde ou que ce soit la Chine. Donc oui, c'est une région qui est capitale. Hein, c'est le Gandhara, là, cette région qui est à cheval sur l'Afghanistan et le Pakistan, c'est vraiment une région très très importante. Il faut conserver ces sites pour se rappeler effectivement qu'il y avait des contacts, des jeux d'influence extrêmement prononcés donc entre l'Occident hellénistique et puis ces cultures d'Orient. Pour le dire autrement, donc en Chine, dans des tombes chinoises de l'Antiquité, on a retrouvé des verres romains. Donc c'est-à-dire des verres qui avaient été fabriqués par des verriers dans des ateliers de Rome. Et donc des verres qui ont été transportés comme ça de Rome jusqu'en Chine. Bon. Sous l'Antiquité, de même qu'à Pompéi, on a retrouvé des statuettes qui venaient d'Inde ou encore qui venaient de Chine. Vous voyez ces échanges-là, hein, qui sont fabuleux. C'est toujours décevant, finalement, quand un État décide de se refermer sur lui-même, hein, donc adopte une politique qui est excessivement nationaliste, ou décide de construire des murs, puisque c'est à la mode. Je vous rappelle, c'est l'actualité, hein, le programme donc, de cette année suit l'actualité. Donc pourquoi ne pas le rappeler effectivement, la mode c'est les murs, on construit des murs, hein. Enfin on reconstruit des murs, parce qu'à un moment donné on les détruisait, ces murs qu'on construisait, maintenant on se remet à en construire, et on en projette de plus en plus de ces murs-là. Bon, c'est navrant, c'est tout à fait navrant, c'est-à-dire qu'on a à tirer de ces civilisations du passé des leçons de tolérance, des leçons d'échange culturel, des échanges philosophiques, des échanges sur tous les plans, bien sûr. Bon, et c'est ça qu'on ne voit pas en fait. Hein. On se croit très supérieur avec notre technologie, mais bon, sur d'autres plans, on n'est peut-être pas tant que ça. Hein. Donc, et encore une fois, j'insiste, il y a peut-être des leçons à tirer de ces grandes civilisations du passé. Alors bon, je sais bien que pour vous tous, c'est une redite tout ça. Hein, c'est des choses que j'ai déjà évoquées, je l'ai dit l'an dernier, je l'ai dit l'année d'avant, et encore l'année d'avant, et ainsi de suite. Bon, c'est de la redite, mais je pense que vis-à-vis de notre actualité, hein, donc c'est-à-dire par rapport à notre actualité, ben, il faut le redire. Tant pis si c'est une redite, si c'est des choses qu'on a déjà vues, si on a déjà montré tout ça. L'actualité fait qu'il est important, je crois, d'en reparler. Tant pis, c'est comme ça, c'est notre actualité. Voilà, hein, c'est tout, hein, après je vous embêterai plus. Après c'est une histoire de l'art antique, tout à fait banale, très orthodoxe. Donc histoire de l'art antique du Proche-Orient et l'influence de l'Égypte, parce qu'il faut jamais perdre de vue la très forte influence de l'Égypte sur le Proche-Orient antique. Donc découpée en trois parties, la première partie s'intéresse aux croissants fertiles, la deuxième partie aux civilisations des hauts plateaux, et puis les pays de Levant, donc c'est-à-dire les Phéniciens, ça sera la troisième partie. Alors, croissant fertile, donc là j'ai dû effectivement trouver donc un arrangement, un équilibre, six cours seulement pour parler de ces civilisations qui ont été très grandes, très puissantes, mais qui surtout se développent sur des millénaires. Hein, donc c'est difficile, si court. Hein. D'où cette présentation. Alors je vous propose de commencer par une présentation des cités. Et là, comprenez bien, ça ne sera pas du tout ce qu'on aura fait dans le chapitre précédent. Hein, le chapitre précédent aura consisté à dresser le bilan de ce qui a été détruit, hein, ou de ce qui est menacé. Là, on parlera concrètement, on fera de l'histoire de l'art antique, si vous voulez. Et donc on parlera de ces premières cités. Alors, retour à Uruk, où a été inventée l'écriture. Je vous rappelle, Uruk, c'est en Irak, hein, aujourd'hui, ville de Gilgamesh. On parlera de Nippur, parce que c'est un très beau site archéologique qui permet de parler de la cité antique, justement. Ur, hein, qui est la patrie d'Abraham. Si dans ce programme, on s'attache à l'héritage, hein, à ce que l'on doit, justement, à la Mésopotamie, ben, rappelons bien sûr que dans l'imaginaire, Ur est la patrie d'Abraham. Hein, et donc cela a emballé l'imaginaire, donc, et pas seulement l'imaginaire hébraïque, mais l'imaginaire latin aussi, entre autres choses. Hein. Ur, on en parlera, parce qu'il y a de très très beaux vestiges encore à Ur, à Sur. Alors Assur, c'est plus délicat, donc c'est dans le nord, hein, de l'Irak, mais c'est une très belle ville antique aussi. Kalou, c'est à 35 km de Mossoul, Mossoul qui, on l'a dit, a été détruite en grande partie par l'État islamique, mais Pakalou, a priori Pakalou, Dour Charoukine, c'est Khorsabad. Alors la Khorsabad, c'est un très bon exemple de cité, mais malheureusement en partie détruite par l'État islamique, et Babylone. Et avec ces exemples, on aura une petite idée comment ces cités mésopotamiennes s'organisaient. On était vraiment ici à l'origine de la civilisation urbaine et de la civilisation un point c'est tout. Donc comment elles s'organisaient ces cités avec leur pôle religieux et leur pôle palatial, dans le pôle religieux des temples, des ziggourats, temples, tour de Babel si vous voulez, donc des ziggourats, et dans le pôle palatial, donc le palais du roi, avec la figure du roi, figure éminemment religieuse, et donc forcément les deux pôles se rejoignent. Le roi est souvent un prêtre, le roi est souvent quelqu'un qui assure un rituel dans sa ville, et qui passe donc de l'un à l'autre, du pôle palatial au pôle religieux. Ensuite, alors un cours sur la statuaire du troisième millénaire avant notre ère, de Mésopotamie, c'est le croissant fertile, la Mésopotamie. Là, donc, on aura à découvrir, entre autres choses, ces fameux orans, qui sont incroyables, que vous connaissez. Ce sont ces figures qui sont pas très grandes, mais qui ont été trouvées finalement en assez grand nombre. Des figures avec des yeux qui sont écarquillés, incrustés de pierres diverses, ça peut être de la nacre, avec du bitume, pour rendre la pupille par exemple. Et ces figures un petit peu mystérieuses sont fascinantes à la fois sur le plan iconographique et sur le plan stylistique. Il y en a beaucoup finalement. Elles datent du troisième millénaire, et parfois pour les plus anciennes, début du troisième millénaire avant notre ère. C'est donc incroyable, c'est très très ancien comme statue, et malheureusement, parmi ces, enfin, beaucoup de ces orans sont inscrits sur les listes publiées par l'UNESCO. Les listes qui se rapportent au pillage, justement, que je vous ferai passer, parce que ça c'est publié donc partout, vous pouvez le trouver sur Internet. Donc l'UNESCO publie la liste extrêmement précise des objets qui ont été pillés et qui ont disparu. Donc on ne sait pas où ils sont. Ils sont sans doute pas perdus pour tout le monde, quoique c'est a priori invendable, ce genre de choses, comme c'est assez unique, ce sont des pièces exceptionnelles, c'est assez invendable. Mais enfin, bon, après tout, on parlera des ports francs là, dans le cours sur le pillage et trafic des antiquités, quand on parlera effectivement de ces nouveaux barbares. On parlera des ports francs, et on rappellera effectivement à quoi servent les ports francs pour certains. Les ports francs, c'est pas loin d'ici, à Genève, vous avez un port franc, à Singapour, vous avez aussi un port franc, Bon, alors oui, on peut penser que ces orans qui sont perdus, ou du moins qui ont été pillés, qui sont perdus pour l'instant en tout cas, sont peut-être pour certains d'entre eux dans des ports francs. Ah, les ports francs, c'est atroce, ces ports francs, parce qu'effectivement, c'est de la pure spéculation, c'est vraiment, là on retrouve un capitalisme qui est désinhibé, donc quelqu'un qui achète une œuvre d'art, disons une œuvre d'art contemporaine, donc c'est-à-dire un artiste contemporain qui est très très coté, il l'achète, mais il l'achète par le biais donc de ses financiers, de ses spéculateurs, donc il ne voit pas l'œuvre d'art, et l'œuvre d'art va directement dans un port franc, donc ainsi il échappe à toutes les taxes, et il attend, et ça peut donc durer des années, il attend que la cote monte, il attend le bon moment, en fait, pour revendre une œuvre qu'il ne verra jamais. C'est de la pure spéculation. Ça, c'est le marché de l'art. Aujourd'hui, le marché de l'art, c'est ça. De l'art contemporain, comme effectivement des antiquités. Mais enfin, revenons donc à notre sujet. Donc, on parlera des rois. Entendons-nous bien d'ailleurs, qu'il n'y ait pas de confusion, c'est bien les représentations des rois dans le croissant fertile. Et alors, parmi les rois que je présenterai, il y aura sans doute Sargon d'Akkad, Goudéa. Goudéa est incontournable. Quand vous visitez le Louvre, le British Museum, vous tombez immanquablement sur une figure de Goudéa. Ur-Nammu, Hammurabi, qu'on a déjà évoqué à travers son code, Sennachérib, Nabucodonosor, qui est célèbre, c'est le deuxième du nom bien sûr, Nabonide, et on verra effectivement qu'à travers ces représentations qui sont des images de propagande, donc le roi est représenté justement en prêtre, il est représenté en bâtisseur. dans ce cas avec un couffin dans la main ou sur la tête, un couffin qui est rempli de briques. Donc il est un roi maçon, un roi bâtisseur. Bon, il peut être représenté en roi berger, en roi divinisé, bien sûr. Donc enfin, il y a tout un éventail de représentations qui correspondent bien sûr au statut et aux fonctions des rois de l'Antiquité. Parmi les images privilégiées, la guerre. La guerre est une image privilégiée du pouvoir royal, donc on ne lâche pas la figure du roi, si vous voulez. Et dans les palais, notamment les palais assyriens, le roi aimait être entouré de bas-reliefs représentant la guerre. Bon, mais en détaillant ces bas-reliefs que vous connaissez, puisqu'il y en a autant au Louvre qu'au British Museum, qu'au Pergamon Museum à Berlin, quoique un peu moins au Pergamon. Donc, en détaillant cette imagerie de la guerre, ces bas-reliefs qui remontent à la première moitié du premier millénaire avant notre ère, c'est frappant de voir d'abord que les Assyriens, et c'est pas la seule population qui est dans ce cas, possédaient des armées très nombreuses, des armées de professionnels, des armées qui étaient dotées d'armes très très impressionnantes, et qu'ils pouvaient, par des stratégies de guerre qui sont parfaitement représentées sur ces bas-reliefs, prendre n'importe quelle ville. Et ça, c'est très très impressionnant, cette représentation de la guerre. Image privilégiée donc du pouvoir royal. On parlera des dieux et des démons, lesquels, je ne sais pas encore, Ishtar sans doute, Inanna Ishtar, soit que vous employiez l'Akkadien, soit que vous employiez le Sumérien. Donc Ishtar, oui, c'est une déesse qui est très importante, en tout cas qui aura une postérité incroyable. Ishtar, c'est finalement Astarté dans les pays du Levant, et c'est donc du même coup Tanit à Carthage, c'est la même divinité, et avec l'évolution des sociétés et une tendance au syncrétisme, les Grecs et les Romains l'identifieront à leur Aphrodite ou Vénus. Bon, alors Ishtar, oui, j'essaierai d'en parler quand même, parce que la postérité d'Ishtar, déesse mésopotamienne, est incroyable, mais pas seulement, on verra d'autres divinités, bien sûr, et des démons. Alors, Umbaba, on en aura forcément parlé avec l'épopée de Gilgamesh, puisque Umbaba est un démon qui intervient dans cette épopée, combattu par Enkidu et Gilgamesh. Pazuzu, vous le connaissez directement, enfin, si vous avez vu un jour le film L'Exorciste, ça commence comme ça, un archéologue qui en Mésopotamie fait une découverte, il trouve dans une tombe une petite statuette de Pazuzu, justement, le démon Pazuzu, mais c'est un vrai démon, enfin c'est un vrai démon entre guillemets, c'est un démon qui était effectivement très très craint par les Mésopotamiens de l'Antiquité. Alors voilà, bon, enfin, je ne sais pas ce que je présenterai en fait dans ce cours-là. Le bestiaire, ben, pareil, je ne sais pas du tout au jour d'aujourd'hui ce que je présenterai. Le lion, pourquoi pas. L'aigle, pourquoi pas. Le taureau, pourquoi pas. Et partant, la face d'homme. Ainsi, on retrouvera le caribou. Vous pouvez l'appeler autrement. Plutôt que caribou, dites chérubin. Et donc, derrière ces quatre images, ces quatre vivants du lion, de l'aigle, du taureau et de la face humaine. On retrouve bien sûr le tétramorphe. Et là, on retrouve un héritage, c'est-à-dire qu'il y a dans le christianisme cette représentation des quatre vivants que l'on appelle le tétramorphe, assimilé aux quatre évangélistes. Mais d'où ça vient? Ça vient de là, justement. Ça vient de Mésopotamie. Et vous avez remarqué dans l'actualité que, justement, l'État islamique ou Daesh, enfin, ceux qui sont essentiellement les salafistes, les wahhabites, qui ne supportent pas l'image, là vraiment c'est un islam qui ne supporte pas l'image, visent en particulier ces représentations, c'est-à-dire ces lions ailés androcéphales, à visage d'homme, ou ces taureaux ailés androcéphales, qui sont cassés au burin, par les islamistes, wahhabites ou encore salafistes, donc parce qu'ils ne supportent pas ça. Mais c'est dommage, parce que là vous avez un héritage, encore une fois, qui est arrivé jusqu'à nous, qui est tiré de la Mésopotamie, qui arrive jusqu'à nous. Alors est-ce que j'en parlerai? Non, je ne vais pas en parler finalement, parce que j'en ai déjà parlé. Hein, les années précédentes, j'en ai beaucoup, beaucoup parlé, là, de ce caribou, de ce chérubin, et d'où il vient. Est-ce que je parlerai du bélier ? C'est intéressant, le bélier, hein, surtout dans le croissant fertile. Est-ce que je parlerai du serpent ? Ah, le serpent, ça, c'est vraiment passionnant, hein, le serpent. Le serpent avant, hein, avant, bien sûr, qu'on en fasse, qu'on en fera dans la Genèse, c'est-à-dire, finalement, un animal satanique, donc il représente la vie, et par rapport à ça, bien sûr, il est très très représenté sous l'Antiquité. Donc là, je ne sais pas, enfin, il n'y a que l'embarras du choix pour le vestiaire, il y a beaucoup beaucoup de choses à voir. Alors ensuite, les civilisations des hauts plateaux, deux hauts plateaux qui seront considérés, l'Anatolie et l'Iran. Pour l'Anatolie, ça sera l'occasion de parler des Hittites, et les Hittites constituent une population indo-européenne. Donc là, on va effectivement passer de populations sémites, les Akkadiens, les Assyriens, les Babyloniens, les Arabes, les Hébreux sont des sémites, mais pas les Hittites. Les Hittites sont des indo-européens. Et ils ont laissé en Anatolie, c'est-à-dire en Turquie aujourd'hui, les traces d'une civilisation très grande, rivale de l'Égypte. Ils se disputaient les pays du Levant, donc il y a eu des batailles, hein, entre les Égyptiens et les Hittites. Et il y a par exemple à Alatcha Uyuk ou encore à Hattusha les ruines des cités hittites. Et les Hittites, oui, constituent une très grande civilisation. Là encore une fois, vous avez un peuple indo-européen fasciné par la littérature mésopotamienne et qui traduira en hittite. Donc il donnera pour la première fois dans l'histoire une traduction en indo-européen, si vous voulez, en hittite, de l'épopée de Gilgamesh. Ils étaient fascinés par l'épopée de Gilgamesh. Donc on a retrouvé dans les cités hittites d'Anatolie des versions, mais en hittite, de l'épopée de Gilgamesh. C'est fameux ça aussi. Ces villes sont remplies de sculptures. Hein. Bon, alors on les verra, puis on verra d'autres sculptures, la sculpture hittite étant très riche. Ça sera donc une occasion de découvrir ce grand peuple, cette grande civilisation. Et on passera ensuite à l'Iran, avec un premier cours qui nous situera loin, loin dans le temps. On parlera de l'Iran élamite. Élamite, ça renvoie au pays de l'Élam. Élam se trouve juste à l'est de la Mésopotamie et correspond à une cité que vous connaissez sans doute. C'est la cité de Suze. Et Suze est une ville qui est attestée des 4000 avant notre ère. Donc c'est une très très grande cité, très très ancienne, très riche, et on aura sans doute beaucoup de choses à dire sur l'Iran élamite par le biais de Suze. On parlera de la civilisation de Marlik, hein, c'est le même cours, là qui nous situe plutôt au milieu du deuxième millénaire avant notre ère, et à Marlik, c'est donc sur le plateau iranien, plutôt au nord, on a retrouvé des nécropoles dont certaines sont royales, et dans les tombes royales qui n'avaient pas été pillées, des objets en or qui sont de toute beauté, mais qui fascinent surtout par leur ancienneté, 1500 avant notre ère. Donc c'est la civilisation de Marlik. Et on terminera ce cours par les bronzes du Luristan, qui nous situent plutôt à la fin du deuxième millénaire avant notre ère. Hein. Fameux, hein, les bronzes du Luristan sont très beaux, sont très complexes sur le plan iconographique, très riches sur le plan stylistique. À ce propos d'ailleurs, ils sont parfaitement contemporains, ces bronzes du Luristan, des bronzes Shang, qu'on a vu l'an dernier, rappelez-vous, ces bronzes du deuxième millénaire là qui sont assez fascinants. Par contre, s'ils sont contemporains, rien à voir, hein, sur le plan stylistique et iconographique, sont des bronzes totalement différents. Alors ensuite, bon, ben vous avez encore un cours qui est la redite de la redite de la redite, malheureusement, mais que voulez-vous, on ne peut pas, si on parle de l'Iran, on ne peut pas ne pas parler de l'empire des Perses achéménides. Quel empire, hein, donc gigantesque, constitué de satrapies innombrables, et justement parce que cet empire était gigantesque, la culture des Perses achéménides, l'art en particulier, puisque nous on va s'intéresser à l'art, était fait d'emprunt. Ça donne beaucoup d'intérêt, de beauté, de grandeur finalement à ces civilisations d'antiquité. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de Persépolis, hein, puisqu'on a eu le cours, je crois, l'an dernier, hein, donc de Persépolis. Mais on peut se rattraper en parlant de Pasargadès, l'autre capitale, hein, des Perses achéménides, ancienne d'ailleurs, hein, plus ancienne que Persépolis, hein, Pasargadès. Et par ce biais-là, ben, on rappellera que les Perses faisaient appel à des artistes grecs, entre autres, pas seulement, mais des artistes grecs qui étaient dans leur satrapie, on pense à ces colonies grecques d'Asie mineure, et ce sont les satrapies perses en fait, hein. Donc c'est une population perse, mais grecque bien sûr à l'origine, qui travaillait à Pasargadès, à Suse ou encore à Persépolis. Donc c'est une très grande culture, hein, donc la culture des Perses achéménides. N'oubliez pas après tout hein, qu'à la fin de sa vie, Alexandre le Grand, qui avait épousé Roxane, hein, donc une Perse, donc une Iranienne, vivait comme un Iranien, il vivait comme un Perse. Bon. Alors, là-dessus, on terminera avec l'Iran dans l'Orient hellénisé, c'est-à-dire que ça nous situera là, à l'époque des Parthes. Alors ça, c'est très très intéressant, l'époque des Parthes. Civilisation que nous, on perçoit, parce que c'est notre éducation. On a reçu, donc à l'école, des cours là-dessus. Bon, on perçoit les Parthes comme étant les ennemis des Romains. C'est-à-dire combattant les Romains sur le limès oriental de l'Empire. Mais c'est pas ça qui va nous intéresser. Ils sont les contemporains des Romains, soit. Mais derrière cela, en fait, il y a une très très grande civilisation hein, qui apparaît ou qui naît en 220 avant Jésus-Christ, qui disparaîtra en 224 après Jésus-Christ. C'est très long quand même, hein, plus de enfin, 4 siècles, quoi, si vous voulez, donc d'existence, hein, la civilisation des Parthes Arsacides, qui avait fait de Atra, qui malheureusement donc a disparu, ou beaucoup de choses ont disparu là-bas, une très grande ville, et ces Parthes vont nous intéresser parce que justement, ce sont ces Parthes-là qui étaient contemporains des Hannes, qu'on a évoqué l'an dernier. Souvenez-vous, la dynastie des Hannes. Ce sont les Hannes qui ouvrent la route de la soie, qui vont la sécuriser. Et les denrées, pas que la soie, les denrées, c'est des épices et beaucoup d'autres choses, donc seront véhiculées sur la route de la soie de la Chine, hein, de Xian, si vous voulez, de Shang'an, de Xian, jusqu'à Antioche, par exemple. Mais qui est au milieu, qui fait le relais, ce sont justement les Parthes. Les Parthes contemporains des Hannes, qui bien sûr étaient, qui commerçaient tout simplement avec les Chinois et qui assuraient en fait la jonction. Hein, c'est un peu comme les Couchants en fait, hein, comme l'Empire des Couchants. Les Parthes comme l'Empire des Couchants, ils sont contemporains, hein, les Couchants et les Parthes, donc assuraient cette jonction entre l'Occident et l'Orient, hein, cette ouverture. Et puis pensez, quand on évoque la route de la soie, on évoque une route par laquelle circulaient les idées, les religions, le bouddhisme, le christianisme sous sa forme nestorianiste, donc le manichéisme, donc tout un tas de religions sont passées par la route de la soie, d'ouest en est et d'est en ouest. Fabuleux. Fabuleux ces peuples en fait, hein, ces peuples de l'Antiquité. Encore une fois, on a beaucoup beaucoup de leçons à tirer de ces gens-là, hein. Mais enfin on préfère construire des murs. Ça nous paraît effectivement plus pertinent dans notre actualité, construire des murs, hein. Bon, alors, ensuite les pays du Levant, donc les Phéniciens, avec un premier cours sur les trésors de Byblos, ce qui nous situe au deuxième millénaire avant notre ère, et donc on n'oubliera pas, ou on ne perdra jamais de vue, l'emprise égyptienne, hein, les pays du Levant sont a priori contrôlés par l'Égypte, mais disputés par d'autres civilisations, à commencer par les Hittites, surtout au deuxième millénaire avant notre ère, et donc ça sera l'occasion, bon ben voilà, donc de parler de ces trésors de Byblos, deuxième millénaire avant notre ère. À Byblos, on a retrouvé notamment un sarcophage, celui du roi Ahiram, qui nous situe vers 1000, donc à la fin du deuxième millénaire avant notre ère, sur lequel, et ça c'est très intéressant, je me présenterai d'ailleurs dès la semaine prochaine, il y a une inscription dans un alphabet, hein, qui est l'alphabet phénicien, donc 1000 avant notre ère, hein, écrit de droite à gauche, hein, sur le couvercle du sarcophage d'Ahiram. Je le présenterai logiquement dès la semaine prochaine, ou si ce n'est pas la semaine prochaine, ça sera la semaine d'après. Voilà donc pour les trésors de Byblos, hein, entre autres choses, le sarcophage du roi Ahiram. Le rayonnement d'Ougarit, Alors Ougarit, c'est comme Byblos, hein, ça a été une très très grande ville, donc on montrera son rayonnement, jusqu'au moment où il se produit quelque chose qu'on a longtemps mis sur le compte des peuples de la mer, mais enfin bon, là c'est flou là, cette notion de peuple de la mer, et en tout cas donc jusqu'au XIIIe siècle avant notre ère, et là après effectivement on constate une détérioration, une dégradation, une dégénérescence, si vous voulez, de toutes ces cultures, de toutes ces civilisations. En fait, on passe de l'âge de bronze, qui rayonne avec des cités comme Ougarit et Byblos, à l'âge de fer. Et ce passage est effectivement tout à fait marqué. Hein. C'est les archéologues qui nous disent ça. Il hein. Y a des incendies, des destructions. Enfin, il s'est passé quelque chose. Hein. Alors, on parlera donc du rayonnement d'Ougarit. Ensuite, l'expansion phénicienne et la nécropole royale de Sidon, qui finalement nous entraîne comme ça déjà à l'époque des Grecs. Mais on l'aura dit, bon, l'alphabet grec est a priori tiré de l'alphabet phénicien, qui lui-même est tiré de l'alphabet cananéen, et ainsi de suite. L'expansion donc phénicienne et la nécropole royale de Sidon, c'est là que les Ottomans, à la fin du XIXe siècle, retrouvaient à Sidon des sarcophages, dont un que l'on a cru être le sarcophage d'Alexandre le Grand. Bon, ce n'est pas le sarcophage d'Alexandre le Grand, mais ce sarcophage qu'on voit aujourd'hui à Istanbul, hein, qui est couvert de sculptures absolument formidables, et peut-être quand même, alors d'abord il est quasiment contemporain d'Alexandre le Grand, et il est peut-être quand même sculpté par Lysippe. Si ce n'est pas Lysippe, c'est le fils de Lysippe. Donc ça veut dire que là on a un ensemble de sculptures sur ce sarcophage unique. Parce que vous savez que des grands sculpteurs de l'Antiquité, des originaux, hein, parlons bien des originaux, il ne reste pratiquement plus rien, surtout de Lysippe ou de Praxitèle, qui étaient d'ailleurs des bronziers, plus des bronziers que des sculpteurs dans le marbre. Donc là, c'est un témoignage exceptionnel. On ne verra pas que ça, d'ailleurs. Hein, il y aura beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres trésors à découvrir dans cette nécropole royale de Sidon. On parlera des Phéniciens Carthage, et oui, ce sont les mêmes, hein. Donc expansion phénicienne jusqu'à Carthage, la civilisation punique est fondamentalement une civilisation phénicienne, ce sont des Phéniciens, les puniques, hein. Et donc à Carthage, on parlera, alors entre autres choses, de ce qui est très très célèbre, les fameux tophètes, hein, ces enclos sacrificiels, hein, qui a beaucoup inspiré Flaubert dans son Salammbô, hein, donc le Salammbô de Flaubert, bon, les enclos sacrificiels où les archéologues ont retrouvé, en plus de témoignages de sacrifices d'enfants, c'est vrai, des stèles au signe de Tanit. Tanit, c'est l'héritière d'Astarté, héritière de d'Ishtar. Bon, Tanit, Baal, il y a des stèles là qui sont très intéressantes et plus. Hein, bon, voilà, enfin, en tout cas, ce sera l'occasion d'évoquer les Phéniciens à Carthage. Et on terminera alors par une bonne note, hein, je vous rassure. Hein, donc la Phénicie romanisée, c'est-à-dire des cités qui sont au jour d'aujourd'hui à la fois, alors ce sont, entendons bien, des sites archéologiques, hein, mais des sites archéologiques qui sont a priori intacts, hein, donc, et que l'on peut donc visiter encore aujourd'hui, a priori. Bon, ça pose pas trop de problèmes, un peu quand même. Bon, la cité de Tyr, la cité de Baalbek, ce sont des grandes cités romanisées qui sont superbes. Et donc c'est sur cette note-là que moi je terminerai mon programme, c'est-à-dire avec des villes. Il y aura peut-être plus que Tyr et Baalbek, je parlerai peut-être de Gerash. Mais Gerash, c'est en Jordanie, et là on échappe hein, aux Phéniciens, il n'y a plus rien à voir avec les Phéniciens. Mais enfin Gerash en Jordanie, c'était le pendant de Palmyre. Et oui, c'est un site archéologique Gerash en Jordanie qui est tellement beau que c'est ou c'était le pendant de Palmyre. Le problème, c'est que Palmyre, c'est détruit en partie. Il reste Gerash. Gerash en Jordanie, on peut le visiter, ça. Hein. On peut le voir encore. Hein. Gerash. Donc Gerash, Tyr, Baalbek, là, ce sont des très très beaux sites romanisés, donc antiques, qui sont vraiment superbes à voir. Voilà, ça vous donne une idée. Bon, ça vous donne une petite idée de ce programme. Moi, ça me semble important de le faire, ce programme, dans cette actualité, hein, de redire des choses qu'on a déjà dites, de montrer des choses qu'on a déjà vues. Mais voilà, donc par rapport à l'actualité, c'est toujours très important.